Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
L'art n'est ni un reflet, ni une transposition de la réalité, c'est une réponse à la réalité, disait Tadeusz Kantor. Alors que s'achevait l'année 2015, dans le monde diplomatique, Guy Scarpetta regrettait que le centenaire de la naissance de Tadeusz Kantor soit passé à peu près inaperçu. En somme, écrivait Scarpetta, l'industrie de la mémoire officielle tend à faire comme si l'art de Kantor, au fond, n'avait pas eu lieu. Mais, comme le soulignait Scarpetta dans son article, l'artiste polonais, disparu en 1990, n'en demeure pas moins une référence mythique du théâtre contemporain. Aujourd'hui encore, ceux qui ont la chance de découvrir la classe morte à Nancy en 1975 ou ensuite à Chaillot n'ont pas de mots assez forts pour dire le choc que fut pour eux ce spectacle. Quelques années auparavant, Tadeusz Kantor montait à Malakoff les cordonniers de Stanislav Witkiewicz, dont il signait la mise en scène, la scénographie et les costumes. Il était l'invité alors de Notre Temps, l'émission d'Edith Dansac et Jean Chouquet.
Vous êtes peintre et vous êtes en même temps homme de théâtre. Peut-on vous dire homme d'avant-garde ?
Oui, c'est la question très difficile parce que je me considère toujours comme l'artiste d'avant-garde. Et pour moi, l'avant-garde, c'était quelque chose qui se compte comme la chose la plus importante dans le développement d'art. Mais de temps en temps, on sent aussi le passé. Et dans ce moment, l'avant-garde, c'est quelque chose de trop facile. Et c'est pour ça que je dis que, par exemple, dans ce moment, je ne pense pas à l'avant-garde. Parce que, à mon avis, maintenant, c'est le point dans l'art qui est très vague et dur. Qu'on est l'artiste d'avant-garde, c'est un peu trop sûr de soi.
De toute manière, être un homme d'avant-garde, qu'est-ce que c'est que l'avant-garde?
Peut-être je vous répondrai sur l'exemple d'un théâtre. Pour moi, le théâtre, ce n'est pas un terrain isolé et professionnel. Et les processus qui s'accomplissent dans l'art actuel, ce sont les révalorisations radicales. Et c'est l'avant-garde, c'est les révalorisations radicales qui explosent, qui détruisent, qui semblent absurdes, qui sont ridiculisées, humiliées, interdites, forment. Tous ces processus forment un ensemble d'idées et de faits qui sans cesse renouvellent la conscience de la condition humaine. Et dans le théâtre, il faut connaître ces processus. Et à mon avis, les metteurs en scène et les décorateurs, ils ne connaissent pas ces processus qui sont en général dans l'art. En plus, il faut y participer. C'est quelque chose de plus. Il faut les créer et il faut prendre les risques. Prendre les risques, et ça, je considère comme la chose la plus importante. Prendre les risques. Sans cela, on ne crée rien d'essentiel, seulement des choses conventionnelles et non engagé. Et probablement, c'est l'avant-garde, c'est aussi peut-être avant tout, c'est l'engagement.
Vous parlez d'engagement et vous parlez de risque.
Oui.
Vous avez déjà mis sur pied beaucoup d'œuvres théâtrales. Est-ce que vous pourriez donner un exemple de risque et d'engagement pris déjà?
Oui, naturellement. Le risque, c'est... naturellement, ça... Le risque, c'est... on peut dire des risques dans la vie personnelle. Naturellement, on risque toujours. Mais les risques plus grands, c'est le risque de sacration personnelle. Parce que dans le développement personnel, on risque toujours son passé. Son passé. Et j'efface toujours mon passé. Quand je fais quelque chose de nouveau, j'élimine mon passé. Et c'est le risque. C'est le risque pour l'artiste, c'est le risque le plus grand. Le plus grand. Et c'est aussi engagement.
Vous dites que vous effacez tout.
Oui.
Mais ce procédé de table rase,
oui,
pour repartir,
oui,
vous repartez quand même pas sur rien, vous partez sur quelque chose,
oui,
sur des positions qui sont les vôtres.
Oui et non. Vous savez, parce que pendant une période qui dure, par exemple, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on prend les deux habitudes. On appelle ça les formes. Ce sont les académiques qui font ça, qui disent que ce sont les formes. Pour moi, ce sont des habitudes qui empêchent de se développer. Et cette habitude, dans certains moments, c'est presque la vie. C'est presque la vie. Et quand on détruit cette habitude, alors ces formes, parce qu'on détruit les formes qui étaient passées, qui appartenaient à moi, alors c'est un risque le plus grand et très, de temps en temps, très dangereux. Et parce que c'est un moment où on est ouvert à l'impossible. Vous savez, et j'avais dans ma vie quelques moments seulement de cet impossible. Quand j'ai vraiment senti que c'est quelque chose qui est impossible. J'ai écrit quelques essais au sujet de ce moment impossible. Et par exemple, c'était il y a quelques années et dernièrement, l'art, par exemple, en Amérique, s'appelle aussi l'art impossible. Par exemple, quand je faisais la mise en scène de Fou et la Nonne, de Witkiewicz, j'ai nommé cette méthode la méthode du théâtre zéro.
Alors justement, qu'est-ce que c'est le théâtre
alors,
zéro
pour nous, c'était vraiment le moment... le moment de la création impossible, parce que c'était la méthode d'abord, c'est une idée, et après nous avons essayé. Et pendant les 2 ou 3 mois, presque, les acteurs et moi-même, je pensais que c'est impossible, parce qu'il s'agissait de jouer, de ne pas jouer. Alors, c'est vraiment impossible. Mais petit à petit, nous avons réussi pour faire quelque chose qui n'est pas destiné à regarder, à présenter. Et c'est presque impossible dans le théâtre, parce que le théâtre, c'est quelque chose pour présenter.
Alors justement, c'est exactement
oui.
le contraire
alors,
du théâtre,
oui.
ça.
Oui, alors c'était contraire au théâtre. Et par exemple, dans les dernières étapes, c'était à Dourdan, pendant le premier atelier de recherche théâtrale, mon théâtre était invité et nous avons essayé le théâtre que je nommais le théâtre invisible. Naturellement, c'est aussi contre le théâtre. Et quelques moments de cette idée, je voudrais essayer dans ma mise en scène de cordonnier aussi. Alors, c'est quelque chose qui est contre le théâtre, et parce que le théâtre est situé dans le temps et dans l'espace. Dans le temps qui est limité par l'espace. Et dans cette conception, on dépasse l'espace et dans le même temps, on dépasse le temps. Parce qu'on a fait les actions que je nommais les micro-émotifs. Micro-émotif action. C'était les actions qui étaient presque invisibles, presque inaperçues. Et il faudra beaucoup de temps pour apercevoir.
Alors, ce théâtre que vous faites, qui est fait de micro-actions,
oui,
de micro-émotivité, vous le destinez à quoi ? Qu'est-ce que vous exprimez par ce système ?
Non, c'est destiné aux spectateurs. Mais les spectateurs doivent être patients. Être patients, et ça dure quand même. C'est élargi dans le temps.
Il n'en reste pas moins que le théâtre, vous êtes toujours obligé de le faire dans un lieu, le théâtre.
Oui, vous savez, par exemple, en Yougoslavie, je faisais le théâtre dans beaucoup de lieux. Et c'était destiné pas aux spectateurs du théâtre, mais aux spectateurs de la télévision. Et je crois que la télévision sera ce moyen dans le théâtre futur qui sera le moyen nécessaire.
Est-ce que ça revient à dire pour vous qu'une certaine forme de théâtre est totalement morte?
Je ne crois pas. Je ne crois pas. Parce que, vous savez, dans l'art, on ne peut pas dire que quelque chose est mort. Parce qu'après quelques années, ça revient. Ça revient. Et j'étais quelquefois déjà dans ma vie témoin. J'étais témoin de que quelque chose qui était déjà condamné à mort, ça était revenu.
Tadeusz Kantor, dans un premier entretien, vous nous avez dit que le théâtre que vous tentez perpétuellement de faire est en quelque sorte un théâtre de l'impossible, à la limite un théâtre invisible. Vous avez donné l'exemple d'un spectacle que vous avez fait où l'action se situait non pas dans un seul lieu, mais dans bien des différents endroits, et que la télévision, en somme, rassemblait le tout à l'intention du spectateur. Et la question que je voudrais vous poser d'abord, c'est est-ce que ce genre de théâtre peut se faire avec le même genre d'acteur que pour un autre théâtre ?
Et pour moi, ce n'est pas la question de la technique d'acteur, c'est plutôt la question de sa psychologie, de sa conscience, psychologique et humaine dans le même temps. Je voudrais expliquer ça, par exemple, sur ma mise en scène « Pouldon ». Jusqu'à la fin des répétitions, je restais méfiant en ce qui concerne une programmation complète de l'acteur. Et je voudrais les retenir le plus longtemps possible à l'étape de ces prédispositions élémentaires. Ces prédispositions élémentaires, c'est aussi mon terme, préexistence de l'acteur. Dans la poule d'eau, c'était cette préexistence de l'acteur qui n'a pas aucun commun avec le texte, avec l'illusion du texte. C'était l'acteur qui était un errant éternel. C'est un voyageur qui avait tous les traits caractéristiques d'un voyageur permanent. Alors, inquiétude, il était toujours inquiet, il attendait toujours quelque chose. Il était tout à fait isolé d'un spectateur, il était tout à fait concentré. Et il avait fait beaucoup de choses absurdes et tout à fait incompréhensibles. Et j'ai consacré beaucoup de répétitions seulement sur ses prédispositions d'acteur comme voyageur. Tous les acteurs étaient voyageurs. Ils étaient habillés comme les voyageurs dans les trenches, dans beaucoup de valises, beaucoup de sacs à dos, beaucoup de sacs, les hommes, comme les clochards, un peu comme les clochards, qui portent tout avec. Et je nomme ça cette zone de préexistence de l'acteur. Et c'est pour moi, c'est très important. Je fais une image d'un acteur. Acteur, portrait nu de l'homme. Montré à tout le monde avec sa figure élastique de caoutchouc. Alors, c'est l'acteur du cirque. Un exhibitionniste éhonté, simulateur, exhibant ses larmes, son rire, le fonctionnement de tous les organes humains, les excès du cœur, de l'esprit, des passions, des ventres et du pénis, avec le corps exposé à tous les stimuli, tous les dangers et toutes les surprises. Attrape humaine, attrape humaine. Et c'est presque, pour l'acteur conventionnel, c'est presque impossible pour accepter ces conditions.
Justement, l'acteur conventionnel, c'est tout de même celui auquel vous avez affaire.
Non. C'était les acteurs professionnels, mais qui s'étaient déjà quelques années, presque 10 années, s'habituer à cette méthode de travail.
Ils s'étaient habitués à cette méthode de travail, d'accord, mais ils avaient été formés d'une certaine façon.
Par qui?
Des écoles, des cours.
Oh non.
Des maîtres.
Oui, mais on peut éliminer ça très facilement.
Parce que la condition d'acteur est tout de même une chose très déterminée.
Oui, mais à mon avis, chaque acteur vrai, il a son instinct d'un acteur éternel. Et à mon avis, acteur par tous les siècles avait les mêmes traits caractéristiques. Il était toujours un vagabond, il était toujours errant éternel. Il avait tous les traits, seulement l'école, le théâtre bourgeois conventionnel qui éliminait tous ces traits qui sont vraiment profonds.
Justement, vous travaillez généralement en Pologne, précisément à Cracovie. Vous vivez dans un pays socialiste. L'acteur est un fonctionnaire, en quelque sorte.
Oui, mais c'est partout. C'est pas seulement dans les pays socialistes. C'est dans le monde entier. Maintenant, l'acteur est devenu le fonctionnaire, c'est employé de l'institution.
Donc
le théâtre est devenu l'institution.
Alors c'est la négation de sa condition d'errant.
Ah oui, naturellement.
Alors il ne peut plus exercer cet instinct qu'il a en lui.
Mais quand même, j'ai réussi. J'ai réussi à faire de lui quelqu'un qui a tous ces traits caractéristiques. Parce que ce n'est pas le problème de voyage vrai. Ce sont toujours les formes qui se comptent. Quand même, dans les derniers temps, nous voyageons beaucoup avec mon théâtre.
Ce que j'aimerais que vous nous disiez c'est comment on fait ce voyage avec l'acteur.
Ce n'est pas le voyage vrai, ce sont les exercices. Je n'aime pas ce mot, les exercices. Ce sont les répétitions pendant lesquelles nous ramassons tous les moments qui sont nécessaires pour cette réalité voyage. Tout à fait objectivement, sans aucune mystique, vous savez, parce que l'acteur, c'est l'acteur. L'art, ce n'est pas la vérité. Alors, on ramasse tous les moments, tous les éléments qui dessinent et qui dessinent cette forme, voyage. Après, c'est un collage, c'est presque le collage et qui est fait sans aucune... Vous savez, parce que j'ai aperçu dans beaucoup de théâtres qu'il y a beaucoup de mysticisme. Beaucoup de mysticisme. On fait d'un acteur quelqu'un qui est presque un prêtre ou quelqu'un qui est au-dessus de l'homme normal. Pour moi, l'artiste, c'est l'homme normal, tout à fait normal, qui a cette capacité de ramasser beaucoup de choses très éloignées. Et c'est tout, c'est le travail absolument objectif. Par exemple, quand je travaille avec les acteurs sur les cordonniers, naturellement, nous travaillons sur le texte parce que c'est tout à fait simple pour moi. L'acteur doit apprendre par cœur. Mais c'est rien.
Ce sont des acteurs français actuellement.
Ce sont les acteurs français et je dois dire qu'ils sont très doués pour cette méthode. Très doués. Et quand même, ils ont beaucoup de
facilité.
Pas facilité, mais ils sont plutôt orientés à la déclamation. Vous savez, à la déclamation et au jeu psychologique. Mais on ne peut pas faire le jeu psychologique dans les premiers moments. Vous savez. Alors, pour moi, l'acteur actuel, c'est l'artiste qui peut se sentir comme un des éléments de théâtre. Par exemple, le théâtre, pour moi, ce sont les situations. C'est l'action. Et pour l'action, il faut beaucoup d'objets. Alors, ce sont les objets, l'action, la situation qui conditionnent l'acteur. Et dans ce moment, quand tout ça se colle, tout ça se ramasse, c'est spontanément l'acteur devient psychologique. Et il trouve tout de suite l'état d'âme convenient et sa psychologie.
Tadeusz Kantor, actuellement, vous montez à Paris une pièce « Les cordonniers ». Je suppose qu'il serait peut-être bon de situer ces cordonniers par rapport aux grandes tendances théâtrales actuelles auxquelles on fait toujours référence, car au fond, pour le théâtre actuel, il y a deux pôles, il y a Brecht, il y a Artaud. On parle toujours d'un théâtre politique, d'un théâtre didactique ou d'un théâtre de la cruauté. Qu'est-ce que c'est, les cordonniers?
Oui. Il y a une opinion générale que les cordonniers, c'est une pièce politique. Pour moi, je peux répondre oui et non. Parce que si cette pièce n'avait rempli que cette fonction, elle serait morte avec son temps. Ce sont les années 30. Witkiewicz Évidemment, il utilise les matériaux de son époque parce qu'il éprouvait d'une manière particulièrement sensible la pression de la vie. C'est pour la création, pour les œuvres de Witkiewicz, c'est la chose très importante et très caractéristique. En lisant ces pièces, il me semble toujours qu'elles sont les prolongements de séances célèbres witkiewicziennes, farcies entrecoupées maladivement de philosophie, de débordements gargantuesques de l'intellect, d'érotisme, de perversion. La théorie du théâtre de Witkiewicz était l'ennemi décidé de l'art à programme et les cordonniers affirment cette attitude. Witkiewicz ne laisse pas l'art s'échouer sur les terrains sociopolitiques. Ce terrain joue le rôle d'un filtre nécessaire et vraiment gigantesque, un filtre d'un ensemble vraiment impitoyable de dépendances et de conditionnements au travers desquels sa conscience pénètre jusqu'au fond de la vie et de l'existence humaine. Cette opération très sublime. Et cette opération témoigne d'un sens extraordinaire de la responsabilité artistique chez Witkiewicz. Les résultats de cette opération se trouvent aux frontières de la cruauté, mais aussi du cirque apocalyptique et des hallucinations. Et comme nous savons, Witkiewicz, comme aussi son contemporain Marcel Duchamp, dépassait toujours les frontières, les limites d'art. Mais en même temps, il ne cesse pas de percevoir ses limites. Les cordonniers, pour moi, ce sont seulement les questions qui posent l'auteur. Il ne répond pas jusqu'à la fin. Et moi, comme le metteur en scène, aussi ne répond pas. Je laisse tout ça dans l'état de la masse informelle, dans l'état de la pièce.
C'est-à-dire que
c'est pour ça que je peux dire que je suis fidèle à l'auteur.
Les réponses, ce sont les réponses des gens qui vont voir ça.
Les réponses appartiennent à la vie et la vie répond, mais c'est sur la plateforme de la vie. La base de cette pièce, ce n'est pas les terrains sociopolitiques, la base, c'est la base philosophique et humaine. Et tous les éléments et tous ces accidents politiques qui sont très mélangés, d'ailleurs, ce sont seulement, comme je disais, un filtre pour cette conscience artistique et formelle, parce que pour Witkiewicz, c'est toujours la conscience formelle la plus importante.
Quelles questions posent les cordonniers?
La question, c'est est-ce que la révolution socialiste, c'est la révolution objective et positive? C'est la question.
Et il n'y a pas de réponse.
Witkiewicz, il donne des réponses, toujours, parce que c'est toujours c'est le dialogue entre les ennemis idéologiques dans cette pièce, c'est le dialogue à l'intérieur de l'auteur. C'est l'auteur qui mène ce dialogue. Et c'est pour ça qu'il est si actuel jusqu'aujourd'hui, parce qu'il ne répond pas, parce que ce dialogue, il n'est pas sûr, il n'est pas certain. de répondre, de la réponse. Et c'est toujours dialogue intérieur de l'auteur.
Autrement dit, le personnage, le sujet, c'est l'homme.
C'est l'homme, oui. Oui. Et c'est pour ça que ce n'est pas la pièce politique. Parce que la pièce politique doit répondre.
Dans les cordonniers que vous montez à Paris, est-ce que vous avez ressenti de grandes similitudes? C'est-à-dire que, en fin de compte, puisque le sujet c'est l'homme, il doit être universel.
Oui.
Est-ce qu'il y a similitude entre ce que vous auriez pu ressentir en Pologne, par exemple, et ce que vous faites ici?
Oui, parce que, vous savez, c'est la pièce qui est... Qui pose la question universelle. Alors, elle est actuelle et compréhensible partout. Naturellement, il y a quelques points qui sont localisés très en Pologne, vous savez. Par exemple, pour moi, Witkiewicz, il est très actuel dans sa peinture, parce qu'il est grand peintre, dans sa peinture. Et dans son théâtre, très actuel, et il est très proche maintenant à nous.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que c'est que être actuel pour vous?
Je ne sais pas.
Vous dites que vous ne savez pas ce que c'est qu'être actuel, mais vous savez bien, vous savez bien ce qui est ne pas être actuel.
Oui. Ah oui. Ouais.
Alors.
Peut-être, il y a quelques années, je pouvais dire qu'est-ce que c'est pour moi actuel. Maintenant, je ne suis pas si sûr.
Est-ce que vous croyez que cette incertitude, c'est lié à d'autres incertitudes par rapport à la vie en général?
Je crois que oui. Oui. C'est une incertitude qui règne partout, je crois. Et dans l'art, cette incertitude, on peut dire franchement, c'est un état presque de tous les artistes. Et c'est pour ça que Witkiewicz est si actuel.
Parce qu'il avait déjà cette incertitude.
Oui. C'est le problème de la forme. Si la forme n'existe pas, il y a reste le comportement. Alors, parce que la forme n'existe pas dans la peinture, dans l'art n'existe pas, parce qu'elle était détruite. Elle était détruite pour sauver l'art. Pour sauver l'art. Après, c'était le Hepnink qui a dit que l'art, c'est presque la vie. Après, on a aperçu qu'il faut quand même faire une frontière entre la vie et l'art, etc., etc. Alors, tous ces changements créent vraiment l'état d'incertitude qui n'est pas le terme péjoratif. Pour moi, l'incertitude, c'est le premier degré pour la création.
C'était Tadeusz Kantor, au micro d'Anouk Adelman dans Notre Temps, diffusé la première fois le 8 mai 1972 sur France Culture. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.